Lu Xun, préface de l'appel aux armes. Dans cette préface à son premier recueil de nouvelles daté du 3 décembre 1922, Lu Xun expose les raisons de son choix de la littérature comme arme de combat. Dans ma jeunesse, j'ai fait moi aussi de nombreux rêves. Puis je les ai oubliés pour la plupart, mais je n'en ai aucun regret. Bien que le souvenir puisse être une source de joie, il peut aussi par moments être une source inévitable de solitude, et il n'est pas bon de laisser son esprit enfermé dans la solitude de jours révolus. Néanmoins, je n'arrive pas à oublier totalement, et cela me torture. Alors ces bribes de souvenirs que je ne peux effacer sont devenues la source de l'appel aux armes. Pendant plus de 4 ans, je suis allé régulièrement, pratiquement tous les jours, chez un prêteur sur gage et un pharmacien. Je ne sais plus l'âge que j'avais alors, mais le comptoir du pharmacien était de la même taille que moi, tandis que celui du prêteur sur gage était 2 fois plus haut. J'allais apporter des vêtements et des bijoux au comptoir 2 fois plus haut que moi, d'où l'on me donnait d'un air condescendant de l'argent que j'utilisais alors pour aller acheter au comptoir de ma taille des médicaments pour mon père gravement malade. De retour à la maison, j'avais à résoudre un autre problème, car c'était un médecin très réputé qui établissait les ordonnances et il prescrivait toujours des médicaments dont les ingrédients n'étaient pas faciles à trouver. Des rhizomes de roseau cueillis en hiver, de la canne à sucre ayant subi 3 ans de gelée, des grillons à parier, de l'ardisie. Pourtant, l'état de mon père ne cessa d'empirer de jour en jour, jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Je pense que se retrouver dans le besoin après avoir connu une existence relativement aisée est une expérience qui permet de se faire une image réaliste du monde. Je voulais aller étudier à Nankin, à l'école navale de Tiangnan, parce que, semble-t-il, je voulais changer de parcours, d'horizon et de milieu. Ma mère n'eut d'autre alternative que de me donner 8 yuan pour mes frais de voyage, en me disant de faire comme bon me semblait. Il est vrai qu'elle pleura, mais c'était naturel, car à cette époque il était normal d'étudier les classiques et de passer les examens officiels. Aller étudier les disciplines occidentales était considéré dans la société d'alors comme une voie sans issue et un simple moyen de vendre son âme aux diables étrangers. Mais je n'en avais cure, et entrai finalement à l'école navale à Nankin. Je découvris alors qu'il existait sous le soleil des disciplines comme les mathématiques, la géographie, l'histoire. On n'y enseignait pas la physiologie, mais nous disposions de livres illustrés de planches, comme le nouveau traité sur le corps humain ou essai sur la chimie et l'hygiène. Je me souviens que, en comparant les théories des médecins que j'avais connues et les ordonnances qu'ils prescrivaient, avec mes nouvelles connaissances, je réalisais peu à peu que ces médecins n'étaient, consciemment ou inconsciemment, que des charlatans, et en vint en même temps à ressentir de la compassion pour tous les malades et les familles victimes de leurs escroqueries. En outre, en lisant des livres d'histoire traduits, j'ai appris que la modernisation du Japon avait débuté en grande partie par l'introduction de la médecine occidentale. Ce savoir encore immature m'a conduit à m'inscrire dans une école de médecine provinciale au Japon. J'avais un rêve superbe, rentrer en Chine à la fin de mes études pour guérir les maux de tous ces malades mal soignés, comme mon père, et éventuellement devenir médecin militaire en cas de guerre, tout en insufflant chez mes compatriotes la foi dans la nécessité de la réforme. Je ne sais pas quels progrès ont aujourd'hui été réalisés dans les méthodes d'enseignement de la microbiologie, mais à cette époque-là, on projetait des diapositives pour montrer l'aspect des microbes. Parfois, lorsque le programme d'un cours était terminé, il restait encore un peu de temps, Alors le professeur meublait le reste du cours avec des projections de paysages ou d'images d'actualité. C'était l'époque de la guerre russo-japonaise. Il y avait donc un assez grand nombre d'images du conflit, et il me fallait souvent me joindre aux applaudissements et ovations manifestant la joie de mes camarades dans l'amphi. Un jour, à ma grande surprise, alors que je n'avais pas vu de Chinois depuis longtemps, j'en ai vu soudain un grand nombre sur l'écran. L'un d'entre eux, au milieu, était attaché, entouré d'une foule d'autres, tous solidement bâtis, mais l'air totalement apathique. D'après le commentaire, l'homme attaché était un espion à la solde de l'armée russe. Il allait être décapité par l'armée japonaise à titre d'exemple. Et ceux qui étaient autour de lui étaient venus profiter d'un spectacle rare. Je n'ai pas attendu la fin de l'année scolaire pour partir à Tokyo, car à partir de ce jour-là, je revins à penser que la médecine n'était pas une chose vitale. Un peuple faible et abruti, même en bonne santé physique, même robuste, ne pouvait au mieux qu'être utilisé pour servir d'exemple public ou être spectateur de ce genre d'événement. Qu'il y ait beaucoup de ces gens qui meurent ne pouvait être nécessairement considéré comme malencontreux. Par conséquent, la tâche la plus importante était de changer les esprits, et il m'apparut alors que pour cela, il fallait en priorité développer l'art et la littérature. J'entrepris donc de promouvoir un mouvement artistique et littéraire. La plupart des étudiants étrangers à Tokyo étudiaient le droit, les sciences politiques, la physique et la chimie, voire les techniques policières ou la production industrielle. Mais il n'y en avait aucun inscrit en littérature ou beaux-arts. Pourtant, malgré ce contexte peu propice, j'ai eu la chance de rencontrer quelques camarades partageant les mêmes idées, et nous avons fini par réunir les quelques autres personnes nécessaires. Après en avoir discuté, il nous parut évident que la première étape devait être une revue, dont le titre évoquerait l'idée de Renaissance. Ce fut simplement « Vie nouvelle ». Peu avant la parution du premier numéro, cependant, plusieurs des auteurs qui avaient été les premiers à se charger de rédiger un article déclarèrent forfait, sur quoi nos investisseurs retirèrent leurs fonds. Nous nous sommes retrouvés à trois sans un sou. Mais par la suite, même ces trois-là connurent des destins divergents. Ainsi se termina l'aventure de cette vie nouvelle avortée. En y réfléchissant bien par la suite, je me suis dit que si l'on obtient une approbation après avoir fait une proposition, il faut le prendre comme un encouragement à aller de l'avant. Si l'on rencontre de l'opposition, en revanche, ce doit être une incitation à lutter. Le pire est d'adresser un appel aux vivants et de ne recevoir aucune réponse, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est aussi terrible que de se trouver perdu dans un désert sans limite. Je me suis alors senti affreusement seul. Ce sentiment de solitude accrut de jour en jour, se lovant autour de mon âme comme un serpent venimeux. Et pourtant, malgré cette tristesse sans raison, je n'éprouvais aucun ressentiment, car cette expérience me fit réfléchir sur moi-même. Je réalisais que je n'étais absolument pas l'un de ces héros capables de rallier les foules à sa cause. Ceci dit, il me fallait absolument me débarrasser de ce sentiment parce qu'il était trop douloureux. J'ai alors utilisé toutes sortes de procédés pour tenter d'anesthésier mon âme, et ils ont produit leur effet. J'ai perdu l'enthousiasme et l'exaltation de ma jeunesse. Lu Xun raconte ensuite qu'il copie de vieilles inscriptions sans signification particulière pour passer le temps. À cette époque-là, un vieil ami, Qin Xin-yi, venait de temps en temps discuter avec moi. Il arrivait en portant un gros porte-document qu'il posait sur la table cassée, enlevait sa longue robe et s'asseyait en face de moi, le cœur encore palpitant parce qu'il avait peur des chiens. Une nuit, après avoir feuilleté les pages du carnet où je copiais les inscriptions de vieilles stèles, il me demanda d'un ton inquisiteur. « Cela sert à quoi que tu copies tout cela ?»«
À rien. »
Mais si tu le copies, c'est dans un but déterminé.
Non, pas du tout.
Je trouve que tu devrais écrire des articles. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Il publiait une revue, Jeunesse Nouvelle. Mais alors, non seulement il n'avait eu aucune réaction positive, mais il n'avait même pas rencontré d'opposition. Je pense qu'il devait vraiment se sentir seul. Pourtant, je lui dis « Imaginons une maison en fer, sans fenêtres et quasiment indestructible. À l'intérieur, il y a un grand nombre de gens profondément endormis qui vont mourir asphyxiés dans peu de temps. Mais ils vont mourir dans leur sommeil, donc sans ressentir aucune douleur. Maintenant, si tu lances un grand cri et réveilles en sursaut quelques-uns d'entre eux, ceux qui ont le sommeil le plus léger, les précipitant ainsi dans les souffrances de l'agonie sans pouvoir les sauver d'une mort inéluctable, tu penses vraiment que tu leur auras rendu service? S'il y en a quelques-uns de réveillés, on ne pourra pas dire qu'il n'y a aucun espoir de détruire la maison de fer. » Il est vrai qu'en dépit de mes propres convictions, je ne peux oblitérer l'espoir, car il concerne l'avenir, et je n'ai aucune preuve qui puisse réfuter l'affirmation de son existence. Alors finalement, j'ai accepté d'écrire quelque chose, et cela a donné ma première nouvelle, Le journal d'un fou. Après quoi, je n'ai pu m'arrêter. J'ai écrit d'autres nouvelles, chaque fois à la demande d'amis, jusqu'à en avoir avec le temps une bonne dizaine. Maintenant, je peux dire que je ne suis plus quelqu'un qui ressent un besoin pressant d'écrire sans pouvoir le faire. Mais je n'ai pas oublié le sentiment douloureux de solitude qui fut le mien à cette époque-là. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher, de temps en temps, de pousser quelques cris, juste pour consoler quelques vaillants guerriers partis au galop dans la solitude, pour qu'il n'ait pas peur de continuer à avancer. Que ses cris soient braves ou tristes, repoussants ou risibles, c'est le dernier de mes soucis. Mais comme c'est un appel aux armes, il faut bien sûr que je me conforme aux ordres de mes supérieurs. Alors j'ai souvent utilisé des allusions voilées pour ne pas transmettre mon terrible sentiment de solitude à la jeunesse actuelle, perdu dans de doux rêves comme je l'avais été moi-même au même âge. Beijing, 3 décembre 1922. Traduit par Brigitte Duzan.